Voilà donc nous, mon message ce matin, vraiment propre. On va lire les premiers 13 versets du chapitre 7 et le reste, je les verrai avec vous dans quelques instants. Je vais juste lire ces versets pour nous mettre dans le contexte, d'accord? C'est un incident qui se passe entre Jésus et les pharisiens. Marc chapitre 7 verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Nous nous trouvons donc dans Marc chapitre 7. L'hostilité contre Jésus augmente de manière significative. Et ici, dans Marc chapitre 7, les versets 1 à 13, on a un conflit qui surgit entre Jésus et les leaders juifs sur le problème de leur tradition religieuse. Et là, il y a un exemple de tradition qui surgit dans le texte en particulier. Alors, pour découper notre texte de manière simple, j'ai plusieurs points. Regardons tout simplement en premier le portrait des accusateurs. Le portrait des accusateurs, on est au verset 1. « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. » Alors, les pharisiens étaient les plus hauts dirigeants du judaïsme. Et les scribes, eux, étaient les experts de la loi. Alors, il faut savoir qu'ils haïssaient tous Jésus et cherchaient un moyen de le piéger et pensent, dans notre texte, avoir trouvé un moyen de le faire. Deux, la nature de leur reproche. La nature de leur reproche. Au verset 2, il est dit ceci, « Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. » Donc ils ont vu les disciples manger sans avoir en premier lavé leurs mains. Alors il y a un texte parallèle dans Matthieu 15, le verset 2, qui dit ceci, éclaircit un petit peu l'accusation. Matthieu 15, 2 dit, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Donc c'est très important, il faut bien noter que les scribes et les pharisiens accusent les disciples de Jésus d'avoir transgressé la tradition des anciens. Alors ça c'est très important. C'est bien la tradition des anciens qu'ils violent. C'est quoi cette tradition des anciens? Eh bien, c'est une référence à un recueil de commentaires donnés par les rabbins du passé. Ce sont des commentaires sur la loi de Dieu. Et ce commentaire s'appelle le Talmud. Le Talmud. Le Talmud aujourd'hui est composé de deux parties, le Mishnah et la Gemara. Et ce sont des compilations de discussions rabbiniques sur l'ensemble des sujets de la loi juive. Alors, lorsque les Juifs étaient en exil, sous le prophète Esdras, les cinq livres inspirés de la Torah furent réunis dans un tome, ce qu'on appelle la Torah, les cinq premiers livres de Moïse. Plus tard, un total de 39 livres furent réunis, ce qu'aujourd'hui nous appelons l'Ancien Testament. Mais avec le temps, les scribes successifs ont commencé à donner leurs propres commentaires sur ces livres. Donc ils lisaient la Torah et ils donnaient leurs commentaires. Et ces commentaires ont été écrits, recueillis et mis dans 20 volumes. Et ces 20 volumes de commentaires sont aujourd'hui appelés le Talmud. Le problème avec ça, les commentaires en soi, c'est pas un mal. Il y a des commentaires, moi je me réfère à des commentaires. Le problème, c'est que très vite, la distinction entre les écritures inspirées de Dieu et l'interprétation des écritures, le Talmud, est devenue moins marquée et à la longue. La tradition est devenue mieux connue et plus appréciée par les chefs religieux et le peuple que les écritures elles-mêmes. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'à l'époque de Jésus, la tradition, écoutez bien, la tradition des anciens avait carrément supplanté les Écritures comme l'autorité suprême dans l'esprit des chefs religieux. Et c'est ce qui ressort dans Marc 7 et le verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, regardez bien, conformément à la tradition des anciens. C'est ça la clé. Donc, ils ne cachent pas du tout le fait que pour eux, cette tradition est hyper importante. Ils transgressaient la tradition des anciens. C'est ce qu'ils disent. Il n'y a aucune référence à la Bible, il n'y a aucune référence à la Torah. Dans leurs propos, il n'y a qu'une référence à leur propre tradition. Donc, on voit très bien que ces traditions avaient pris une importance extrême dans leur esprit. Ok, alors quel était le reproche spécifique que ces scribes et ces pharisiens ont fait vis-à-vis des disciples de Jésus conformes, ou disons qui violaient leur tradition? Eh bien, nous le voyons à partir du verset 2 que je vais relire, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Et ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc, ils avaient tout un rituel qu'ils avaient concocté, dont surtout celui du lavage des mains. Du moins, c'est celui-ci sur lequel ils accusent les disciples. Alors essayons de comprendre ce rituel, d'accord? Trois, c'est mon troisième point, le rite de la purification des mains. Il faut comprendre ce rite pour essayer de voir ce qui se passe. Alors dans le Talmud, il y a une section intitulée le Yadaim. Dans le Talmud donc. C'est une section consacrée à la purification rituelle des mains. Alors je cite le commentateur Edersheim, très connu, il dit ceci, je cite. Des grands pots ou jarres d'eau étaient toujours prêts à être utilisés avant chaque repas. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a fait le miracle de tourner l'eau en vin, c'était certains de ces jarres. La quantité minimum d'eau qui pouvait être utilisée pour cet acte de purification était un quart de bûche, qui était assez d'eau pour remplir une et demie coquille d'œuf. L'eau était en premier versée sur les deux mains, avec les doigts pointés vers le haut. L'eau devait couler sur les doigts à la main, ainsi que sur le poignet pour ensuite couler du poignet. L'eau récupérée était maintenant impure, ayant touché des mains impures, et si cette eau touchait à nouveau ses mains, elle les rendrait impures. Ainsi, après ce premier lavage, le procédé était répété, mais avec une différence, cette fois-ci avec les doigts pointant vers le bas. Puis le procédé était répété une troisième fois, mais cette fois-ci, chaque main était frottée par le poing de l'autre main. Chaque juif était contraint à faire ceci avant chaque repas. Les juifs stricts le faisaient entre chaque mets de chaque repas. Alors cette semaine, j'étudiais cette tradition et je suis allé sur Google. J'ai tapé Yedaim et là, je suis tombé, mes amis, sur une vidéo que j'aimerais vous montrer. Alors, le but ici, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui se fait dans le judaïsme aujourd'hui. Vous allez voir un juif qui explique à ses étudiants comment faire ce lavage de mains. C'est actuel, c'est une vidéo qui date de 2005, elle est postée, donc ils veulent que les gens la voient. Alors, si vous voyez cette vidéo, vous allez comprendre exactement ce que Jésus est en train de condamner. D'accord ? Donc on va regarder, je crois qu'on peut lancer. C'est bon, Lucas ? Alors on va lancer la vidéo, c'est parti.
Quand on mange du pain, on reste loin trop mal de l'époque du temps, on se lave les mains. Alors qu'est-ce qu'il faut que la main soit pure? Pour que la main soit pure, c'est bien simple. Il faut verser sur la main une quantité de Révéx, c'est 86 millilitres d'eau qui recouvre toute la main. On peut faire une fois. Mais à condition que l'eau recouvre toute la main.
86 millilitres sur chaque main?
Sur chaque main. Alors 86 millilitres, c'est rien, c'est comme ça dans un verre. 86 millilitres, c'est presque impossible à avoir. Extrêmement agile avec les mains, par les petites mains, de laver la main entière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait en trois fois. Une première fois pour enlever la saleté. Parce que des fois, c'est des choses qui sont à l'écran. Si la chose qui fait écran entre l'eau et la peau, donc l'intérieur n'est pas valable. Si il y a des lentes qui a de la matière, d'accord, alors ça fait sentir ça, ça fait écran. Si ça ne fait pas matière, tu vas nettoyer, tu as encore l'empreinte, ça rien du tout. Il faut que ça fasse écran, qu'il y ait de la matière qui fasse écran.
Ouais, c'est vraiment sur un cédar en bleu parce que ça n'a rien
à matière. Non, parce que tu as frotté, tu as enlevé, c'est bon. C'est imbibé, d'accord. Pardon? Ok, c'était imbibé, c'était pris dans la peau. Tu vois, tu frottes, ça ne part pas. Comment ça se fait?
Ça part.
Hein? Ok, alors, suffisamment que si tu passes la main comme ça, il n'y a plus de matière comme ça au toucher, c'est bon.
Mais si, si, il faut une fois en
ok. Hein? Ça va pas à quel point ces mains sont sales. Si tu aurais maintenant d'avoir fait la détente de ta voiture, c'est pas comme ça avec l'ancienne ministre que tu vas nettoyer tes mains. D'accord? On est d'accord? On parle des mains normales, d'accord? Tu fais une fois. Deuxième fois, c'est pour purifier. Mais l'eau qui reste, il y a des chances qu'il n'y ait pas 86 millilitres. Et dans ce cas-là, l'eau qui reste, elle est impure. Parce que l'eau, c'est la moindre 36 millilitres, elle est purifiée par la main qui est impure. On remet une troisième fois de l'eau pour faire passer l'eau qui est impure. Ça est très compliqué. Donc le mieux est de faire une fois avec plus de 36 millilitres. Une fois, beaucoup, d'un coup, toute la main. Là, ils font trois fois. Mais trois fois, c'est une erreur. On peut faire trois fois, c'est mieux, c'est pas obligatoire. Ce qui est le mieux, c'est faire avec une fois bien, sur toute la main comme il faut, pas besoin de le refaire. C'est pas du tout, fait une deuxième fois ou une troisième fois. L'essentiel, c'est que l'un soit entièrement arrosé, donc mouillé, pour enlever la saleté. Maintenant, attention. Si jamais de l'eau avec qui je fais l'étude là saute sur l'autre main, cette eau qui est posée sur l'autre main, plus une goutte qui est posée, elle est impure. Et je peux, hein, parce que c'est de l'eau qui a servi à faire des tirages sur cette main-là.
Ah, si le point est pas mouillé.
Ouais, elle est sèche maintenant. Moi, je fais une cacotte. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends, quand je touche maintenant, on va dire, je mets une goutte qui a sauté, qui est arrivée sur cette main-là. D'accord? Si je touche quelque chose, si je touche maintenant avec la main sèche, la main mouillée, je vais tout impurifier, je dois tout recommencer. Faire attention de ne pas toucher les mains. En deux mois, il faut étudier une théorie d'Aïm, parce qu'on revient toujours à la parole, on va dire, t'as jamais fait une théorie de ta main. Pour moi, je te jure toujours fait, t'as rien fait, t'as fait ton but, d'accord? C'est très compliqué, parce que si t'as de l'eau maintenant, je te demande qu'il y ait un plus haut. T'as besoin de moins de 86 millilitres de cette eau-là, cette eau un peu se poser sur l'anse. Et tu prends l'anse tu touches cette eau-là, tu touches l'autre main, c'est pas valable. Même si tu as l'eau de nettile à elle-même, plus de 86 millilitres, mais qui a sauté, qui est venu sur cette main-là, cette eau-là n'est pas valable. Il faut que cette main soit sèche. D'eau de l'Indien, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc le plus simple, c'est prendre comme ça, faire un coup bien, après que la main soit bien sèche, tu prends avec l'autre main, et là, tu as les mains plus longues, tu la bracha, tu peux manger ton pain.
Moi, j'ai regardé cette vidéo, je me dis, c'est vraiment actuel. C'est 2005. C'est exactement notre texte d'aujourd'hui, actualisé à notre jour. Donc, rien n'est nouveau, quelque part, et ces traditions continuent. Et, alors, pourquoi une telle tradition? Pourquoi une telle tradition? Eh bien, parce que les Juifs pensaient qu'ils pouvaient être souillés en touchant les choses impures, on l'a entendu. Un rabbin est allé jusqu'à enseigner qu'un certain démon nommé Shipta s'attachait aux mains des gens pendant qu'ils dormaient. Et en fait, il parle d'impureté pendant qu'on dort, mais il faut regarder toute la vidéo si vous la voulez, parce qu'il en parle, et comment il faut faire pour se laver avant minuit, après minuit. C'est exactement ce qu'il dit ici, ce que j'ai lu. Et qu'on n'était pas cérémoniellement pur, et que le démon pouvait donc passer des mains à la nourriture lors d'un repas, et rentrer dans l'homme par le biais de sa bouche et de son système digestif. Donc il fallait être purifié les mains pour empêcher, selon ce qu'il disait, qu'un démon puisse rentrer et ensuite te contaminer. Et donc on peut imaginer et comprendre que ces cérémonies sont devenues extrêmement importantes pour les rabbins. Un de ces rabbins, alors c'en est qu'un, hein, a même insisté que quiconque habite en Israël et mange la nourriture ordinaire avec des mains purifiées peut être assuré qu'il obtiendra la vie éternelle. Alors quoi conclure? Quoi conclure? Alors il est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu avait prescrit certaines cérémonies de purification en rapport avec l'alliance donnée à Moïse. Mais ces cérémonies sont un peu comme notre baptême d'aujourd'hui. Ils étaient des symboles ou des images externes de vérités spirituelles internes. Nulle part l'Ancien Testament élève les rituels comme ayant quelque mérite en soi, ni valeur intrinsèque, ni bénédiction en elle-même. Ça, c'était une invention pure et simple de ces scribes et des pharisiens qui ont été embellis au fur et à mesure des années, et on en arrive à ce qu'on vient d'entendre en vidéo. Alors, 4. Ça, c'était le problème. Les disciples ont osé manger sans faire ce rituel avant, et ça, c'était un scandale pour eux. 4. La réprimande cinglante de Jésus. Enfin, j'aurais dû lire aussi le verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, même prennent-ils leur repas avec les mains impures? Donc ça, on l'a vu. Maintenant, la réprimande cinglante de Jésus, à partir du verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est incroyable. Premièrement, au verset 7, il leur dit qu'il donne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Au lieu de donner le commandement de Dieu, vous donnez le commandement des hommes. Au verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous l'abandonnez et vous observez les traditions des hommes. Et au verset 9, c'est encore plus fort. Vous rejetez bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Jésus les accuse purement et simplement de violer la loi de Dieu. C'est intéressant que Jésus appelle ici la Torah, la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et on le rejette. Abandonnent au profit de leur tradition. Cela veut dire, pour faire simple, qu'ils avaient élevé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu, et Jésus les condamne sans mâcher ses mots par rapport à cela. Leur tradition était devenue le standard, pas la parole de Dieu. 5. Alors maintenant, il va donner un exemple pour leur montrer la folie de ce qu'ils sont en train de faire. L'exemple poignant du danger de la tradition à partir du verset 10. Car Moïse, peut-être avant de le lire, Jésus veut montrer à ces Juifs comment leur tradition était dans certains cas devenue chose complètement folle et tordue en fait. Alors, je ne veux pas être plus dur que Jésus l'était, mais je ne pense pas qu'on peut être plus dur que ce que Jésus a dit. Et là, il donne un exemple terrible du résultat néfaste de la tradition. Regardez, c'est incroyable. Verset 10, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. » Jésus donne un exemple et cite la loi de Dieu. Là, il cite la Torah, la loi de Dieu, la Bible. Et il cite une loi vis-à-vis de notre responsabilité envers nos parents. Il cite en fait le cinquième commandement qui se trouve dans Exode 22, qui dit ceci, « Honore ton père et ta mère ». Puis il ajoute Exode 21:17 qui dit, c'est une prologue commandement, qui dit « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». En fait, cette loi est simple à comprendre. Nous sommes appelés à honorer, à aimer nos parents à tout moment, à les traiter avec respect, amour, avec révérence, avec dignité, et même de les aider financièrement s'ils en ont besoin, et quel que soit leur âge. On doit honorer nos parents. Voilà ce que le texte dit. À tout moment, nous devons les honorer, qu'ils soient jeunes ou vieux. Pas compliqué à comprendre. La deuxième citation, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort », est là pour souligner combien cette obligation est importante. Jésus dit que si tu, enfin la Bible dit, « Si tu n'aides pas tes parents s'ils sont dans le besoin », c'est l'équivalent d'un crime qui mérite la peine de mort. C'est l'équivalence d'un meurtre, en fait. Donc, on peut dire que c'est relativement grave aux yeux de Dieu. On doit amour et respect envers nos parents, même lorsqu'ils sont âgés. Verset 11. Mais vous, ah. Donc, ça, c'est ce que la loi de Dieu dit. Ah, mais vous, comment vous l'interprétez cette loi et quelle est votre tradition par rapport à cette loi? Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Le mot corban est un mot hébreu qui veut dire offrande à Dieu. Les pharisiens, les scribes enseignaient au peuple qu'il y avait un moyen de contourner la responsabilité du devoir de pourvoir aux parents, aux besoins financiers de leurs parents lorsqu'ils étaient âgés. Tout ce qu'il fallait faire, c'est de nommer ou proclamer cet argent qui devait les aider, corban, c'est-à-dire ah, offrande à Dieu. Autrement dit, tu pouvais dire à tes parents ceci, ah, papa, maman, je vois que vous avez des besoins financiers. Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider financièrement puisque cet argent qui pourrait vous aider, je l'ai déjà consacré à Dieu. Ainsi, les pharisiens avaient concocté un moyen ingénieux de contourner la loi de Dieu. En proclamant cet argent corban, tu étais maintenant délié de la responsabilité de devoir soutenir financièrement tes parents. Donc, c'était pas mal. Si tu étais en conflit avec tes parents et que tu voulais absolument pas les aider pour X raisons, ben il y avait un moyen légal, même spirituel, de le faire. Corban. Corban. Et en fait, cette machination tordue était un moyen pernicieux de déposséder ses parents de l'honneur qu'il était dû selon la responsabilité soulignée dans le cinquième commandement. Et le comble, c'est que ce qui était soi-disant offert à Dieu pouvait souvent être gardé pour soi-même. Donc ça, c'est la tradition. 6. Le verdict de Jésus rendu. Le verdict de Jésus rendu, verset 13. Écoutez, verset 12. « Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Waouh ! Vous savez ce qu'il fait là ? Jésus les accuse tout simplement d'avoir annulé la parole de Dieu. Ça veut dire quoi annuler ? Rendre sans autorité ? Rendre nul ? Rendre caduque ? C'est le même mot utilisé dans les papyrus anciens d'une manière légale pour décrire un testament invalidé. Un testament invalidé n'a plus aucune autorité. Il vaut simplement, il faut le déchirer et le jeter, ça ne sert à rien. Voilà ce qu'ils ont fait avec la parole de Dieu. Terminé, c'est notre tradition qui prend le dessus. C'est incroyable. Voilà ce que les chefs religieux juifs avaient fait avec la parole de Dieu. Elle n'avait plus aucun poids d'autorité, elle était invalidée, elle était bonne qu'à jeter, elle ne servait plus à rien. Imagine prendre ta Bible, de la déchirer et de la lancer à la poubelle. C'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui a remplacé la parole de Dieu ? Verset 13, leur tradition. Verset 6, hypocrite. Et ils avaient bien profité sur vous. Regardez ce qu'il dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Écoutez, alors ça m'a fortement aussi frappé cette semaine. Il dit clairement que ce peuple honore Dieu en vain. Je ne sais pas si vous avez saisi ce qu'il est en train de dire ici. Écoutez, c'est important. Leur adoration est vaine. Ça veut dire que leur adoration est sans aboutissement, inutile, vide, futile. Leur adoration ne sert strictement à rien. C'est le néant total. Sans utilité, sans résultat. En fait, c'est une perte de temps. Ils font tous les actes d'adorer Dieu. Ils ont tous les bons mots peut-être. Mais Jésus dit, ils honorent Dieu en vain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un coup de téléphone, vous discutez avec quelqu'un au téléphone ou sur Skype, ça arrive de temps en temps. Tu discutes, il y a une conversation et tout d'un coup c'est toi qui parles et tu commences à parler, tu parles. Puis après, je ne sais pas, une minute, tu dis, alors, c'est intéressant, hein? Rien. Allô? Berthe, t'es là? Edmond? Xavier? Allô? Rien, zéro, niet. Ils ont été déconnectés. Vous vous rappelez? Alors, c'est vrai, moi je me sens tout bête. Je viens de dire, raconter, je sais pas, une minute ou deux, puis d'un coup, je réalise qu'ils ont rien entendu. Je me dis, mais c'est une perte de temps, là. Vite, alors on veut les rappeler. Ben, c'est un peu pareil. C'est comme si un téléphone a sens unique, et tu parles, et tu discutes, tu fais tous tes gestes d'adoration, mais il n'entend rien. Mais c'est grave, quoi. Je sais pas, moi, c'est grave ici. Pourquoi? Mais parce que leur adoration n'était pas basée sur la vérité. Ils ne venaient pas à Dieu comme Dieu a décidé qu'on devrait venir à lui. Ils venaient à Dieu basés sur ce qu'eux pensaient être la bonne manière de le faire, et c'était la mauvaise manière. Ils enseignaient bien des préceptes, mais des préceptes qui n'étaient pas de Dieu, mais des préceptes des hommes. Je vous donne un exemple assez intéressant. Je pense que c'est un exemple intéressant dans 1 Pierre 3:7. Alors c'est un texte qui parle à des chrétiens, des maris. Donc si vous êtes marié, écoutez bien, d'accord? Regardez ce qu'il dit. Marie. Nous les maris, c'est comme ceci que nous devons aimer nos femmes, d'accord? Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Donc, honorez votre femme, messieurs. Ensuite, il dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh ! La Bible dit que si je n'honore pas ma femme, si je ne l'aime pas comme je devrais faire, même si je suis chrétien, ben, je peux prier et tac, il y aura un blocage. Dieu n'écoutera pas mes prières. Mais ça fait vraiment réfléchir, je trouve. Donc il est tout à fait possible de faire ce qu'on pense être juste, mais d'être dans l'erreur, avec des conséquences draconiennes vis-à-vis de notre adoration, notre vie de prière. Alors bien sûr, là, il parle à des non-chrétiens. Dans Marc 7, là, c'était un petit exemple pour les chrétiens. Donc, même nous, il faut faire attention. 7. L'erreur des pharisiens expliquée. L'erreur des pharisiens expliquée, verset 14. Très, très intéressant. Alors, notez que jusqu'au verset 13, Jésus parle aux leaders juifs et à ses disciples qui étaient avec lui. Mais à partir du verset 14, Jésus élargit son auditoire à la foule. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. » Donc Jésus veut expliquer à la foule qui ont été enseignés par les pharisiens et les scribes, il veut leur expliquer l'erreur. Verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit « Écoutez tous et comprenez. » Verset 15. « Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Alors Jésus ici dit quelque chose de très simple. « Rien de ce qui rentre dans l'homme, donc par sa bouche impliquée, puisque c'est le reproche, ne peut le souiller spirituellement. » Donc, les pharisiens se trompent à penser qu'un homme peut être souillé parce qu'il mange et qu'il peut donc être purifié par un rituel. Jésus continue. Mais, verset 15, par ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc il dit, l'homme est souillé par ce qui sort de lui. Continue verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est intéressant. Jésus dit ça sans expliquer. Il n'explique pas. Alors verset 17, les disciples sont perplexes. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Donc ils sont un peu perplexes, ils ne comprennent pas ce que Jésus vient de dire. Et alors, au verset 18, Jésus leur dit quoi ? Vous ne comprenez pas ? Il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Êtes-vous comme eux ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller ? Ne comprenez-vous que la nourriture ne peut pas souiller un homme spirituellement ? Donc il précise sa pensée au verset 19. « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit, quand tu manges un bout de pain, ben ce bout de pain ne rentre pas dans ton cœur, il rentre dans ton estomac. Oui, la nourriture ne rentre pas dans le cœur d'un homme, mais dans son ventre, puis est éliminée par voie naturelle. De ce fait, aucune nourriture ne peut te rendre spirituellement impur. La raison que la nourriture ne peut pas souiller un homme spirituellement, c'est parce que la nourriture ne rentre pas dans son cœur. Et beaucoup de commentateurs pensent que cette dernière phrase, « Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille », aussi dans au verset 19, où il est dit « qui purifie tous les aliments », il dit au verset 19, « car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments ». Pas mal de commentateurs pensent qu'ici, Jésus fait une référence anticipée quelque part, comme avec Pierre dans Acte 10, où il déclare tous les aliments en fait purs. Aucun aliment peut te contaminer spirituellement. Par exemple, si tu vas dans un restaurant chinois, d'accord ? Là, tu vois un petit Bouddha avec une pomme. Tu dis, une pomme contaminée. Tu peux la manger, il n'y a aucun problème. Alors, ça pourrait, peut-être, tu vas choquer un chrétien, là, peut-être, il ne faudrait pas, d'accord ? Mais en fait, cette pomme en elle-même n'est pas contaminée. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Pourquoi ? Verset 21. Verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille l'homme. Donc, tout le monde se dit, mais c'est ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Non! C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Ah bon? Verset 20. Il dit encore, ce que sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes comme ce que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est intéressant, Jésus nous apprend ici qu'il y a globalement deux parties de l'homme. Il y a le côté physique et le côté spirituel. La pollution physique ne peut pas contaminer et souiller l'homme spirituellement. De même, c'est très important, les pratiques religieuses physiques, des rites, des cérémonies, autres pratiques religieuses, ne peuvent pas purifier la partie spirituelle de l'homme. Un comme l'autre. Ce que ceci souligne, mes amis, c'est que les cérémonies religieuses dans l'Ancien Testament avaient comme but d'illustrer des vérités spirituelles. C'est comme la Sainte Cène ou le baptême aujourd'hui. Ces rites religieux chrétiens n'ajoutent aucun crédit spirituel à notre vie spirituelle, mais sont là pour illustrer des vérités spirituelles. Tel en était le cas avec certains des rites avec les rites dans l'Ancien Testament. Non, l'homme intérieur, le cœur humain, a besoin bien plus qu'une purification cérémoniale pour être purifié. Écoutez, moi, le cœur humain a besoin d'une transformation totale. Pourquoi ? Ben regardez de quoi est fait notre cœur. Et là, si vous êtes honnête, vous allez dire amen à tout ça. Voici, c'est votre portrait. Je pensais à vous cette semaine, d'accord ? Je vous connais, mes amis, parce que je me connais moi aussi. On est tous pareils. Voici ce qu'il y a dans le cœur. Et si vous dites que ce n'est pas vrai, je crois que là, vous n'êtes pas très honnête, d'accord ? Parce que Jésus le dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de tous les hommes ? Premièrement, il y a des mauvaises pensées. Littéralement, des propos mauvais, dialogos. Des raisonnements mauvais dans notre esprit. Vous avez remarqué que des fois, on machine des trucs, mais vraiment mauvais. Des adultères, relations sexuelles avec une personne autre que son propre conjoint. Et Jésus a dit que ça se passe souvent dans la tête, avant que ça arrive pour du vrai. Les débauches, pornéa, toute activité sexuelle illicite, hors mariage, entre un homme et une femme. Mes amis, tout ça, on a dans le cœur. Les meurtres, de tuer quelqu'un avec préméditation, vous êtes jamais dit. Ah, celui-là ou celle-là, des fois, si je pouvais, je l'étranglerais. Vous avez déjà eu cette pensée. Ah, vous avez commis le meurtre dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que vous avez le meurtre dans votre cœur. Les vols, clopés, kleptoméniaques. On est tous des kleptoméniaques. On a tous envie de voler un truc, de temps en temps, ici à droite. Bon, bien sûr, on ne le fait pas. Heureusement, Christ est en nous. Mais c'est ce qu'il y a dans le cœur, bien sûr. La cupidité, un appétit pour ce qui appartient à quelqu'un d'autre. La méchanceté, c'est le malice, un cœur poussé vers le mal qui veut infliger le mal à d'autres. La fraude, un tendre piège pour faire du mal à quelqu'un. Des fois, il y a cette envie de se venger, mais alors quelque chose de grave. Le dérèglement, plonger dans la débauche en défiant l'opinion publique. Ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. C'est la débauche ouverte et on s'en fiche du monde. Hein ? On le voit beaucoup ça aujourd'hui. Les regards envieux. Intéressant le mot. Ophtalmo, mauvais. Le mauvais œil. Eh ben ouais, c'est l'œil mauvais qui attend pour pouvoir prendre ce qui est à quelqu'un d'autre. La calomnie, c'est le blasphème. Le blasphème contre Dieu ou contre les hommes. L'orgueil, le péché de se féliciter soi-même et d'avoir du mépris pour les autres. Et la folie, un manque de sensibilité morale et spirituelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le verset 23 nous dit « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Bienvenue au club des hommes et des femmes souillés à fond. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est dur face à cette liste de se dire qu'on est quand même une personne bien. Vous avez déjà entendu des gens religieux ? « Ouais, moi je suis bien. » Ah bon ? Marc 7, retenez, Marc 7. Vous lui lisez ça, vous lui dites « Tant ». T'es une bonne personne. Alors, puisque ça, c'est dans le cœur, voici la conclusion. Est-ce qu'un rite religieux peut purifier mon cœur? C'est tellement invraisemblable d'imaginer que certains diraient oui à ça. Ben, c'est une évidence. Je parlais comme musulman récemment, et j'ai testé cette thèse. J'ai demandé à cet homme musulman religieux ceci. Je lui ai dit, est-ce que tu es certain d'avoir le pardon total de tes péchés? Est-ce que tu es pardonné? Vraiment. Il a réfléchi un instant, il m'a répondu, pour être pardonné, je dois faire trois choses. Et je me suis dit, ben voilà. Il a répondu exactement comme les pharisiens. Il a répondu comme quelqu'un qui se disait que par un rite ou par quelque chose, je peux me purifier pour être pardonné. Jésus dit, non, ton cœur est corrompu. Tu ne peux rien faire par un rite religieux pour te pardonner toi-même. C'est impossible. Tu es corrompu. Alors, je conclue. Conclusion et application. Quelle est la conclusion pour le pharisien religieux? Peut-être une personne que vous connaissez, une personne très religieuse, qui va peut-être à la synagogue, ou à la mosquée, ou à l'église, qui est très religieuse, et qui, par ses rites religieux, tente de plaire à Dieu. Quoi leur répondre? Quoi leur répondre? Vous pouvez commencer déjà avec Jérémie 17, le verset 9. Écoutez bien, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Vous lui dites, tu sais, ton cœur est tortueux par-dessus tout. Et en toi, il y a la méchanceté. Ensuite, vous pouvez aller à Romains 3, s'ils ne sont pas encore convaincus. Et lire à partir du verset 9, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Non, verset 10. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leur langue, sur leurs lèvres, un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sous leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte du Dieu n'est pas devant eux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, et voilà. Ouais, non, mais je peux continuer, exactement. Elle dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par ses œuvres, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mon ami, tu es corrompu de A à Z. Tu ne peux pas plaire à Dieu par tes propres efforts. Mais s'ils ne sont pas encore convaincus, voilà Matthieu 23, à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Ben oui, c'est ça les cérémonies religieuses. Je vais paraître bien. Mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Ben oui, à l'extérieur tout est beau. Qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Ah, merci d'avoir posé la question. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, à partir du verset 25, c'est dans l'Ancien Testament. Écoutez, 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 c'est trop génial. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Écoutez, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Écoutez, il me faut une transplantation de cœur. C'est la seule solution. Il me faut un nouveau cœur. Et Dieu me dit qu'il m'en donnera un. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous dites, ouais, mais quand, John, quand? Ah, merci d'avoir posé la question. Jean 3 et le verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, je dois naître de nouveau maintenant, avoir un nouveau cœur maintenant. Oui, comment? Jean 3, 16, la lignée dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah, l'agneau parfait de Dieu qui est mort pour mes péchés, afin de les ôter. Mais oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Ah bon? Je peux atteindre Dieu? Je peux avoir la vie éternelle? Oui. Comment? Par moi? Non. Pourquoi? Parce que mon cœur est pécheur. Par qui alors? Par Christ. Oui. Pourquoi? Parce que lui était innocent. Il a pris mon péché sur lui. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Et il m'a donné un nouveau cœur. Amen. Et c'est pas fini, mes amis. 2 Corinthiens 5:17. 2 Corinthiens 5:17. Il faut dire ça à tous vos amis qui ont le cœur corrompu. Qui veut dire tous. D'accord? Car... Non, c'est pas 2 Corinthiens, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens 5, 17. Oui, c'est ça. 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. La bonne nouvelle, c'est que tu peux rien faire pour te changer, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu, j'ai des frissons, il a pourvu gratuitement, en sa grâce, son Fils, pour qu'on ait un nouveau cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, il est impossible de polir l'homme depuis l'extérieur. C'est en fait dangereux. C'est ce que Jésus dit. C'est très dangereux. Il est foncièrement contre les rites religieux. Bien sûr, ceux qui ne sont pas clairement, dans la parole de Dieu comme illustration de vérité. Il nous offre un nouveau cœur. Moi, j'aimerais juste deux petites applications, 30 secondes, pour nous les chrétiens. On est chrétiens? Tu es chrétien? Tu connais Christ? Tu as reconnu toutes ces choses vraies dans ton cœur, mais tu sais aussi que tu as un nouveau cœur en Christ, parce que Christ est ton Sauveur et ton Seigneur. Quelle est l'application pour nous? 1. Pose-toi cette question, très importante. Est-ce possible que subtilement, de temps en temps, tu surélèves la tradition, quelle qu'elle soit, au profit de la loi de Dieu dans ta propre vie? On a tous des traditions, hein, des habitudes, même au niveau de notre église, on doit se poser des questions. Est-ce qu'on a mis des traditions en place qui peuvent facilement devenir subtilement plus importante que la parole de Dieu? Si oui, que Dieu nous aide à les voir et à les corriger. Parce que la seule chose que je veux après avoir vraiment compris ce texte, c'est la parole de Dieu, mes amis. Rien d'autre. Deuxième chose, est-ce que nous sommes vraiment passionnés de la loi de Dieu? Vraiment, 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 vraiment. Et troisième et dernière chose, l'exemple que Jésus a utilisé nous montre que nous devons honneur à nos parents. Sorte de petite parenthèse, bah écoutez, c'est marrant, hein, j'étais en train d'étudier cette semaine et j'ai reçu un coup de téléphone de ma mère qui habite dans le Oklahoma et elle a 88 ans, bientôt 89 ans. Et on m'a dit, John, écoute, ta maman, elle va déménager, elle va prendre un appartement plus petit et elle doit trier toutes ces choses. Puis j'ai deux frères qui sont très occupés. Et donc on m'a dit, est-ce que tu pourrais venir aider maman? Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Et j'ai dit, ben, si je dis non, ça veut dire que je suis en train de mettre le ministère au-dessus de ma mère. Ce serait pas juste. Donc c'est pas encore à 100% décidé, mais pas demain, mais le lundi d'après, je vais peut-être aller au Clermont pendant une semaine pour aider ma mère. Et je suis tout content d'y aller, d'aller passer une semaine avec elle. Alors je serai peut-être absent dimanche, je n'étais pas prévu. Mais écoutez, je pense que c'est vraiment une bonne application, n'est-ce pas, à ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Moi, je veux honorer ma mère jusqu'à la fin de ses jours. Et si c'est comme ça que je peux le faire, ben, je vais y aller. Et je pense que vous allez certainement comprendre par rapport au texte d'aujourd'hui. Amen. Seigneur, vraiment, quelle merveille encore la parole de Dieu, Seigneur. Et je pense à cette vidéo qu'on a regardée aujourd'hui, Seigneur, à cet homme qui enseignait à ses étudiants ses rites. Ouais, c'est triste, Seigneur. Et c'est... Moi, je te prie qu'il y ait des chrétiens qui puissent avoir une opportunité à témoigner l'amour de Christ et la grâce de Dieu à ces gens, Seigneur. Christ, après tout, était juif. Oh Seigneur, aide-nous à être fidèles, et si nous avons des amis juifs ou d'autres personnes religieuses, à vraiment, Seigneur, répandre la grâce de Dieu. Oh, merci de nous avoir transformés, de nous avoir changés, Seigneur, et aide-nous à répandre ce parfum autour de nous. Seigneur, maintenant, on passe à l'Assemblée Générale dans quelques minutes, et nous te remercions pour cet aspect très légal, très administratif. Seigneur, merci parce que depuis 6 ans et demi maintenant, cette église, ben, tu l'as bénie richement. Et... Seigneur, on va regarder les chiffres, mais aussi on veut regarder ce projet que tu nous as mis sur le cœur. Et je te prie qu'on sera nombreux, Seigneur, à prier pour cela, vraiment poursuivre ta face par rapport à ce que tu veux pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Fais ton œuvre et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.